Donc je ne vais pas vous dire que je n'ai pas préparé, parce que ça serait pas juste, mais ce n'est pas du tout dans le sens que j'avais préparé pour aujourd'hui. J'ai préparé pour il y a 2 semaines, je crois, au Parlement à Düsseldorf. Nous habitons à Düsseldorf. Et en Allemagne, il y a des Länder, donc qui ressemblent un peu à des États à l'intérieur de la Fédération. Et dans chaque land, dans chaque État, il y a un président, qu'on appelle un Ministerpräsident, et puis il y a un Parlement. Avec, bien sûr, toutes les lois qui sont votées dans le Land pour les différentes choses de leur juridiction. Et puis, depuis une cinquantaine d'années, je pense, il y a un groupe de prières au Parlement de Düsseldorf. Et un jour, j'ai été introduit, alors j'y vais. Et puis un jour, ils m'ont demandé de donner le message. Et donc, c'est surtout des hommes d'affaires, mais il y a aussi le président du Parlement. Donc, c'est sympathique, j'ai eu l'occasion de présenter ce petit court message pour le président du Parlement et les quelques personnes qui étaient là. Et j'avais choisi exprès un message, on va dire, tiré des évangiles et puis peut-être adapté au monde du travail, parce que j'ai pas mal d'hommes d'affaires. Donc, on va lire courtement la parabole que vous connaissez bien, la parabole de l'économe infidèle. Et ça allait bien pour un parlement où il y a les économes infidèles. Hein, bon, c'était lié. Et alors, donc c'est Luc 16. Donc ceux qui étaient à Angoulême il y a 2 ans, j'avais eu l'occasion de présenter les 14 paraboles privées de l'évangile de Luc, puisque Luc est vraiment le spécialiste des paraboles qui lui sont propres. Et on peut à peu près en trouver 14 qui sont vraiment seulement chez lui, ça tomberont aussi comme chiffre 14, mais c'est à peu près ça. Donc retenez qu'il y a à peu près 14 paraboles privées chez Luc, dont quelques grandes que vous connaissez bien, le fils prodigue par exemple, et la drachme, si j'en compte 2 ici, mais pas par exemple les 100 brebis, puisque ça c'est dans un autre évangile. Et donc dans notre chapitre 16 de Luc, la parabole de l'administrateur, du manager, hein, en anglais, le manager infidèle. Et il dit aussi à ses disciples, il y avait un homme riche qui avait un économe, un administrateur, un manager. Et celui-ci fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et l'ayant appelé, il lui dit, « Qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration. » car tu ne pourras plus administrer. Et l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je ? Car mon maître m'ôte l'administration. Je ne puis pas bêcher la terre, j'ai honte de mendier. Je sais ce que je ferai, afin que quand je serai renvoyé de mon administration, je sois reçu dans leur maison. » Et ayant appelé chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il lui dit, « 100 battes d'huile. » Et il lui dit, « Prends ton écrit, assieds-toi promptement et écris 50. » Puis dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Et il dit, « 100 corps de froment. » Et il lui dit, « Prends ton écrit et écris 80. » Et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Et moi, je vous dis, donc dit Jésus, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Si vous donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vrais ? Et si dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est vôtre? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. Voilà, c'est elle la parabole, que vous connaissez bien. Alors quand on lit une parabole, il y a une méthode que je propose qui est en trois parties. La première, c'est d'abord de comprendre l'histoire. De quoi ça parle? C'est quoi la parabole? Donc quelle est l'histoire que l'on raconte? Spécialement quand elle est un peu compliquée. Ensuite, quelle est, on va dire, l'interprétation? Il n'y en a pas qu'une, bien sûr, mais on peut essayer de donner une interprétation. Et là, on va être un tout petit peu aidé parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous la donne. Comme il le fait dans peu de paraboles, mais dans quelques-unes. Dans la grande parabole, on va dire, modèle, qui est la parabole du semeur, c'est une parabole qui est un peu la première de toutes les grandes paraboles, et c'est celle qu'il nous interprète pour nous donner la méthode. Et puis, après, comme on n'a pas bien compris, il nous refait encore l'interprétation de la parabole de l'ivraie, il nous fera l'interprétation de la parabole du filet. Et voilà, je pense que c'est la quatrième où il y a une interprétation qui est donnée par le Seigneur. En tout cas, c'est toutes les autres, c'est à nous de trouver l'interprétation. Donc d'abord, on essaie de comprendre l'histoire. Ensuite, on essaie de trouver l'interprétation. Donc quand c'est lui qui la donne, en général, elle est bonne et on va essayer de la comprendre. Et puis quand c'est nous qui la donnons, on se donne le mal pour essayer d'en trouver une bonne qui quand même est fondée sur la parole. Et alors après, là, on a... C'est la grande ouverture, puisqu'après, c'est les applications. Et après, à partir des applications, là, vous êtes vraiment libre, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire plein, plein d'applications des paraboles. Essayez juste de ne pas mélanger interprétation et application, parce que là, on est complètement perdu. D'accord ? Donc là, on commence d'abord par comprendre l'histoire. Donc l'histoire, un patron très riche, un homme riche, et il a quelqu'un, comme il est très riche, il a quelqu'un qui lui gère ses biens. Quelqu'un qui fait l'administration, donc qui est en charge vraiment du compte en banque, mais aussi des achats, des ventes, de tout ce qui est le commerce de cette grande maison. Et il est donc accusé comme dissipant. Donc voilà quelqu'un qui dissipe, qui brûle, on va dire, de l'argent. C'est le même mot que la parabole d'avant, le fils prodigue, qui dissipe son bien en vivant dans la débauche. Donc c'est un, pas un très bon employé, hein, cet homme-là. Alors, il est appelé, et au moment où le maître lui fait comprendre qu'il va perdre son travail, il se dit, il faut que je trouve une solution. Et comme je ne sais pas faire des travaux des champs, et je n'ai pas envie de mendier, eh bien, il se dit, je vais trouver une solution pour qu'on m'accueille bien dans les maisons voisines. Alors, il va voir des gens qui devaient de l'argent à son patron. Donc, c'était de l'argent à l'époque, c'était plutôt des biens en nature. Donc, le premier, ça a l'air d'être 100 battes d'huile, c'est environ 4000 litres d'huile. Donc, il lui fait une réduction de 50% de sa dette de façon à ce que le gars en face se dise « Waouh, ouais, bah dis donc, il est sympa quand même ce manager, il va se souvenir de son visage, il va se souvenir de cette gentillesse ». Et il espère être reçu dans cette maison s'il cherche un boulot. Pareil, le second, c'est 100 corps de froment. Ça a l'air d'être environ 40 000 de froment. Là, il lui fait une réduction de 20%. Et il espère, là aussi, être bien accueilli. Donc, on a bien compris que c'est avec l'argent de son maître qu'il a continué à dissiper. Il se prépare son propre avenir. D'accord ? Et le maître, verset 8, c'est pas le Seigneur Jésus, c'est le maître, on est toujours dans la parabole. Et le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Donc le maître loua l'économe injuste parce qu'il avait agi prudemment. Le maître se dit, tiens, il a bien agi cette fois-ci. Avant, il gérait mal mes biens. Et là, quand même, il prépare son avenir. Quelque part, c'est ça que j'avais envie de lui. J'avais envie de quelqu'un qui prépare l'avenir de notre maison, de ma grande maison, Eh bien, je lui ai secoué un petit peu, il a fallu que je le secoue, mais là au moins, il a fait ce qu'il fallait, puisqu'en fait, il est assez astucieux. Le maître, il est riche, il s'en fiche complètement d'avoir perdu de l'argent. En plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui l'intéresse ici, c'est son employé, on va dire, et il le loue parce qu'il a agi prudemment, c'est-à-dire qu'il a finalement été intelligent, il a préparé son avenir, et pour préparer l'avenir, eh bien, il a dépensé un peu plus des créances de son patron, mais en fait, son but, c'était de préparer son avenir. Et on arrive à l'interprétation, et c'est le Seigneur Jésus qui va nous la donner. Donc il y a la phrase de transition qui, a priori, est déjà dans la bouche du Seigneur, car les fils de ce siècle sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Donc le Seigneur commence son interprétation et dit, regardez, c'est un bandit, c'est un bandit. Mais regardez, il sait faire, lui, avec l'argent. Hein, il utilise l'argent de quelqu'un d'autre pour se préparer son avenir. Ça, c'est des bandits, donc c'est des gens qui sont des gens du monde, des gens de ce siècle. Ils ont leurs références dans les affaires du siècle, mais ils sont plus prudents, ils sont plus malins que dans leur génération, donc vraiment dans leur monde, que les fils de la lumière, que les croyants. Vous, les croyants, mes disciples, il parle à ses disciples, prenez exemple sur ce côté. Alors, quel exemple? Est-ce que c'est une de ces paraboles par contraste, éventuellement? On aura le juge inique bientôt, avec une description d'un juge épouvantable, et puis de cette femme qui insiste. Et bien sûr que Dieu n'est pas le juge, c'est l'inverse. Tous les caractères de la parabole du juge inique sont tous à prendre à l'envers. C'est une parabole par contraste. Est-ce que c'est une parabole par contraste? En fait, pas si sûr. Pas si sûr, parce que le Seigneur nous dit, regarde ce qu'ils font. Il prend l'argent de quelqu'un d'autre et il prépare l'avenir. Et c'est ça que j'attends de vous. Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Utilisez l'argent. Alors, c'est injuste parce que oui, c'est de l'argent. L'argent, on sait bien que ce n'est pas très juste. Il y a des riches, il y a des pauvres. Donc, ce fameux monde de l'argent, richesses, on va les appeler injustes parce qu'elles sont. Elles ne sont pas, c'est pas des choses spirituelles, c'est l'argent du monde. On est dans le monde là. Eh bien, cet argent, faites-en vous des amis. C'est-à-dire, utilisez ça pour faire des amis, afin que quand vous viendrez à manquer, quand vous serez à la fin, vous soyez reçus dans les tabernacles éternels. Alors on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Investissez l'argent qui ne vous appartient pas. L'argent ne vous appartient pas, il est au Seigneur. Et c'est maintenant qu'il va nous le faire comprendre. Investissez, utilisez finalement les biens que Dieu vous a confiés pour son royaume, pour que quand vous arriverez à la fin, là il y a différentes façons de le traduire ce verset, hein, quand vous viendrez à manquer. Ici, on a aussi la note, quand elles viendront à manquer, quand on arrive à la fin, vous arrivez à la fin de votre course, vous êtes dans un moment où vous allez être reçu dans les tabernacles éternels et vous allez vous apercevoir que, eh bien, ce que vous avez investi va avoir porté du fruit et vous allez être bien reçu pour faire le lien avec la parabole. Et il nous donne maintenant, et c'est ça qui va nous faire bien comprendre, il nous donne maintenant quatre phrases à la suite qui sont tous à mettre en parallèle. Elles sont très faciles à les suivre. Hein. La première, c'est fidèle dans ce qui est petit, très petit, alors il est fidèle dans ce qui est très grand. Donc, soyez fidèle dans ce qui est très petit, l'argent que Dieu vous confie tous les jours, vous serez comme ça un jour fidèle dans ce qui est très grand. Ah, première comparaison. Deuxième phrase. Celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Donc, un encouragement de plus à être fidèle, parce que si tu le fais à l'envers, si tu es injuste, eh bien tu seras aussi injuste dans ce qui est grand. Donc, utilise bien ce qui t'est confié. Troisième, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies. Ah, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, donc l'argent, on va dire, qui va vous confier les vraies? Ah, il y a des vraies richesses. Et c'est là qu'on commence à comprendre maintenant pourquoi ils les avaient appelées injustes au début. C'est pour nous les faire différencier des vraies. C'est quoi les vraies richesses? Par exemple, Éphésiens 1, on est béni de toute richesse dans les lieux célestes en Christ, par exemple. Les vraies richesses, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qu'on a du Seigneur en tant que croyant. Donc, si vous n'avez pas été fidèle, si vous ne savez pas gérer finalement les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Celles qui vous appartiennent, les vraies. Qui vous confiera des choses spirituelles? Alors, prenons un exemple. Tu ne sais pas gérer, on va dire, ton argent, et est-ce qu'on va te confier finalement d'enseigner des enfants dans l'Évangile? Est-ce qu'on va te confier des richesses, des vraies richesses? On va te confier la responsabilité de gérer quelque chose de très important, qui est par exemple de confier la parole à des enfants, pour prendre cet exemple. Quatrième et dernière comparaison, et donc on comprend maintenant la structure de l'explication que donne le Seigneur à la parabole. Et si dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est vôtre? Ah, le quatrième, c'est que les fameuses richesses, elles sont à autrui. Et alors, qui va vous donner les choses qui sont à vous? Ah, mais alors les vraies richesses, elles sont à moi. Ah, mais alors, c'est-à-dire que les richesses injustes, elles sont à autrui, à Dieu, pas à moi. Je suis juste administrateur. Ah oui, mais c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait, l'administrateur. C'est qu'il a utilisé les richesses de son patron pour se préparer l'avenir, pour, on va dire, faire du bien autour de lui, auprès des gens qui devaient des grosses sommes à son patron, donc des gens qui étaient peut-être un peu dans les dettes vis-à-vis de ce patron. Il leur a fait du bien pour être ensuite reçu par eux. Il l'a fait en utilisant les réserves, l'argent du patron. Et donc, si vous êtes fidèle, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, cet argent qui ne vous appartient pas, que Dieu vous a confié, alors qui vous donnera ce qui est à vous, les vraies richesses spirituelles, les vraies choses qui sont, qui viennent de la part de Dieu. Donc voilà comment le Seigneur nous interprète la parabole. Et il termine avec une déclaration qu'il a donnée dans d'autres évangiles. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » Donc on a vraiment une interprétation donnée par le Seigneur lui-même qui est vraiment sur le sujet des richesses. Et elles sont jugées comme injustes parce qu'elles sont différenciées des vraies, et elles sont à autrui, parce qu'elles lui appartiennent à lui, par rapport aux choses qui nous appartiennent à nous. Et le Seigneur nous encourage donc, finalement, à bien gérer le peu qu'il nous confie, hein, qu'il décrit comme étant peu, pour faire du bien autour de nous. Ça, il ne le dit pas exactement ici, mais faites-vous des amis, donc faites du bien, ou faites à des gens, ça crée de l'amour, on va dire. Amis, c'est ça, c'est faites-vous des amis, c'est-à-dire utilisez ça pour le bien des gens qui vous seront reconnaissants et vous serez alors reçus, bien reçus dans les tabernacles éternels. Donc quand on lit ça, on se dit, oh là là, elle est quand même compliquée, la parabole, pour l'interprétation du Seigneur lui-même n'est pas si simple. Vous ferez un bon exercice, c'est comment vous auriez fait, vous, pour construire une parabole qui veut enseigner ça, qui veut enseigner que l'argent ne nous appartient pas et que Dieu nous dit, mais c'est pas le tien, donc utilise-le bien, de toute façon. Parce que les choses importantes que Dieu veut te confier, eh bien, elles sont bien plus importantes. Donc, l'argent qu'il t'a confié, utilise-le, fais du bien, et tu seras un jour reçu dans les tabernacles éternels avec joie de voir que le bien que tu as fait a porté des fruits. Peut-être que tu vas même rencontrer des gens qui ont été aussi convertis par le travail missionnaire que tu as soutenu, par telle ou telle chose où tu es intervenu. Donc, utilise cette richesse pour son royaume. Donc, vous verrez que ce n'est pas si facile à créer une parabole, et donc elle est absolument brillante. Alors, là où on est toujours un peu décontenancé, c'est parce que on voit que ce maître loue l'économe injuste. Et donc, l'important, c'est déjà de bien comprendre que c'est à l'intérieur de la parabole, c'est le patron qui loue, parce que c'est ça qu'on voulait mettre en relief. On veut mettre en relief qu'il utilise de façon astucieuse les biens de son maître pour préparer son œuvre. Voilà, donc on a à peu près compris l'histoire, on a à peu près compris l'interprétation, et maintenant on est libre pour toutes les applications possibles. D'accord ? Alors, il y en a une que j'ai donnée au Parlement et que j'avais donnée à une autre conférence sur la Bible et le monde du travail. Parce qu'alors, s'il y a quelque chose, quand on a vécu soi-même l'entretien de licenciement, soit le poing dans le ventre qu'on a reçu soi-même, parce qu'on va perdre son poste, ou bien parce qu'on a été dans le cas d'être obligé de le donner, ça c'est une parabole qui évidemment est extrêmement riche. Parce que maintenant, une application possible, c'est cet homme riche, ce patron, et qui entend dire des choses sur un employé. Et donc, très important, on ne s'en remet pas à ce qu'on entend dire, mais on vérifie les faits. Et il y a cet entretien, il est convoqué au bureau. Il est convoqué au bureau, il l'appelle, qu'est-ce que ceci que j'entends dire de toi ? Rencontre de ton administration, on va regarder les faits. Donc, il y a une recherche des faits quand il y a un problème ici de travail. Mais la parabole est ici compactée et on a déjà le coup dans le ventre, c'est « tu ne pourras plus administrer ». Cette phrase-là, elle est dite finalement assez vite. Et on sait que dans ce genre d'entretien, il ne faut pas tourner autour du pot. S'il y a une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un, il faut le dire clairement et vite. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Et ça porte des fruits. Parce que verset 3, l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je ? Car mon maître m'ôte l'administration. » Donc, l'économe n'est pas dans le déni. Cette crise difficile d'emploi, ce problème d'emploi, il n'est pas dans le déni, mais il a compris qu'il va perdre son emploi. Les choses sont malheureusement claires. Et il arrive à ce moment qui est le bilan de carrière, c'est absolument incroyable, puisqu'on a un bilan de carrière où il se dit « Que ferai-je ? Je ne puis pas bêcher la terre et j'ai honte de mendier. » Je Magui dit que bon, il n'avait pas trop honte de prendre dans la caisse. Mais en fait, ce n'est pas sûr qu'il prenait vraiment dans la caisse, lui. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il gérait mal. Voilà. Mais en tout cas, il a honte de mendier. On a ici le bilan de compétences. D'abord, il réfléchit. Que ferai-je ? Donc, il se projette dans l'avenir. Il est déjà dans le projet de s'en sortir. Il est déjà dans la recherche, on va dire, d'une solution. Donc très positif, plutôt que de se morfondre dans sa souffrance, parce que c'est des entretiens qui sont difficiles. Je ne puis bêcher la terre, j'ai honte de mendier, je sais ce que je ferai. Et donc il a un plan, et on voit ses yeux là, j'ai un plan, je vais y aller. Donc c'est très intéressant de voir que quand on est face à un problème d'emploi, de ne pas se morfondre, mais de se relever, de repartir, et d'avoir un plan d'action. Et quel va être son premier plan d'action ? C'est de faire agir le réseau. Donc il va faire agir son réseau, qui est de dire, finalement, c'est qui mes contacts ? Eh bien, moi qui suis administrateur, je suis en contact avec pas mal de personnes qui doivent de l'argent à mon patron, donc je vais aller les voir, et le but, ce sera qu'ils me reçoivent le jour où je vais leur envoyer ma lettre de candidature. Et donc, il fait sa tournée ici, avec donc des montants assez importants. On a vu, il adapte même la réduction. Une fois, il y a 50% de réduction, une autre fois, c'est 20% de réduction. Au passage, là, on peut glisser une deuxième application, qui est que de la remise de dette, ça peut être une méthode aussi pour aider quelqu'un finalement à payer. Donc, aussi bien, il n'a pas fait un si mauvais boulot pour son patron, si des fois ça a pu permettre à ces gens-là de finalement payer. Parce que Le patron, en fait, l'argent, il ne l'avait pas encore, hein, puisqu'ils n'avaient vraiment pas payé. Donc, quand je dis « prend l'argent de son patron pour investir », en l'occurrence, le patron, il n'avait pas l'argent pour le moment. Hein. Donc, on ne sait jamais, mais ça, c'est une application, on ne sait jamais, il se pourrait que, de temps en temps, faire un aménagement de dette envers quelqu'un, ça peut finalement aider à ce que ça se débloque et qu'on commence à avoir des premiers remboursements plutôt que cette immense montagne qui fait qu'on n'y arrive pas à démarrer. Et ce qui est touchant, je continue dans l'application du monde de l'entreprise, ce qui est touchant, c'est que ce verset 8, le maître loua l'économe injuste en disant il a agi prudemment. Donc ce patron est beaucoup plus intéressé par l'impact au niveau ressources humaines qui a été causé par cet entretien difficile que par l'aspect comptable, toutes ces dettes et tout ça, c'est pas ça, c'est secondaire. Ce qui était intéressant pour ce patron, c'est son personnel. Et il a eu le courage de faire cet entretien difficile et il voit les fruits. Il dit « Ah, ben dis donc, ah ben ça c'est astucieux alors, ah ben ça c'est intelligent, ah ben voilà, il prépare son avenir, ah ben il fait agir son réseau, ah il investit l'argent pour le futur, mais c'est ça que je voulais de lui finalement toutes ces années. » Et donc ce patron qui se réjouit, qui voit finalement, qui voit ce côté positif dans la circonstance et qui voit les fruits de son entretien de licenciement, eh bien c'est très beau, c'est une belle attitude. Hein. Et donc pour ceux qui ont des charges de personnel, d'avoir quand même le développement de leur personnel qui doit primer sur les considérations pécuniaires qui sont sinon toujours là et qui pourraient souvent prendre le dessus. Au passage, on peut glisser une autre application là, sur ce point, c'est que si cette parabole est si difficile et pourquoi on la comprend mal, c'est justement parce que on a un maître qui félicite un économe injuste et on a l'impression que le Seigneur prend ça en exemple. Et c'est ça qui nous perturbe. Et là, il y a une application intéressante, c'est que le Seigneur aussi, derrière des situations qui peuvent nous paraître bizarres, il sait voir. Il sait voir le rayon de lumière qui se cache dans une circonstance difficile. Et nous, des fois, on a tendance à rejeter en bloc un truc qui ne nous paraît pas bien. Et là, on a une parabole où finalement, il y a un vrai rayon de lumière qui est repéré ici par ce maître et qu'il le dit et il le loue. Et il sait dire, ben voilà, il a agi de façon astucieuse, prudemment. Il a très, très bien, c'était très, très, très bien. Et donc ça, c'est un encouragement aussi pour nous. Voilà, donc on pourrait chercher d'autres applications, mais retenons bien sûr le côté très pratique de l'appliquer à la gestion de nos biens. Après, en application, bien sûr, ça peut être la gestion de notre temps, la gestion de nos familles, la gestion de nos capacités, de nos facultés. On a tant de choses que le Seigneur nous confie qui ne sont pas à nous, pareil, et que l'on peut faire fructifier en les investissant auprès des autres, en faisant du bien autour de nous avec ce que le Seigneur nous a donné. Donc ça, c'est aussi de l'application, de la parabole, mais c'est vraiment tout à fait dans le contexte. Et en se souvenant aussi que voilà, nos vies lui appartiennent et nous gérons les biens d'autrui. Et nos vies lui appartiennent. Et ce qui nous appartient à nous, ce qu'il nous a donné, eh bien, c'est dans les lieux célestes, là où est notre trésor, là où est notre bourgeoisie, notre citoyenneté. Merci à tous.